Nous tissons la trame de l'histoire.
Voici une semaine toute spirituelle. Et d'abord, l'invention de Yahvé.
Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un.
Une chose est la foi, Dieu sensible au cœur, accessible aussi par la raison. Autre chose est la science biblique, qui d'ailleurs ne cherche pas ou plus à élever de contradictions face à la foi. Elle en a suffisamment à surmonter en elle-même, puisqu'aujourd'hui aucune théorie en exégèse ne parvient plus à s'imposer totalement. Ce qui est assuré historiquement, c'est que le Dieu présenté comme le créateur du ciel et de la terre n'a pas été toujours là, et qu'il n'a pas été unique. Tout de suite, son chemin dans l'esprit et la chair des hommes du Levant a été complexe. La tradition attribuait à Moïse la constitution des cinq livres du Pentateuque, la Torah. Mais l'historicité de Moïse est maintenant problématique et on sait depuis longtemps que la Bible n'est pas un livre d'auteur, mais la résultante d'un mouvement de sédimentation qu'il faut explorer au plus près. Quand, après le retour de Babylone, en 539 avant notre ère, se met en place un système qui sera le judaïsme, il se fonde sur des textes qui sont enchâssés les uns dans les autres par une grande entreprise de totalisation, mais qui témoignent d'origines différentes. En somme, le judaïsme attendait peut-être les sciences bibliques, il était prêt à être considéré depuis des points de vue très différents.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Thomas Romer, bonjour.
Bonjour.
Vous me disiez, Thomas Romer, si je tousse, c'est que je rentre de San Diego, en Californie, où il faisait 25 degrés. Il y avait là-bas un rendez-vous.
Oui, un rendez-vous, le grand congrès des biblistes qui réunit chaque année plus que 12 000 personnes. Donc il y a quand même un certain nombre de gens qui s'intéressent à la Bible dans le monde entier.
On ne va pas dire combien d'auditeurs vous avez depuis 2007 à votre cours du Collège de France intitulé « Les milieux bibliques », ni combien de téléchargements, parce que la pudeur empêche les professeurs de dire qu'ils obtiennent des records en podcast. Parler historiquement de la Bible, même si vos cours ont beaucoup de succès, c'est pas si naturel que cela en France.
Non, je pense que la France a un peu un problème avec la Bible. Et on imagine souvent que la Bible, ça appartient aux églises et aux synagogues. Mais on oublie un peu que c'est quand même aussi le fondement de notre culture, de notre civilisation. Et qu'on comprend peu de choses si on n'a pas une idée un peu sur la Bible, que ce soit l'histoire de l'art, mais aussi l'histoire politique. Le recours aux lois bibliques dans les lois de la société, bah, ils sont fréquents. Et donc, je pense que c'est important aussi de faire entrer la Bible dans la société et dans l'histoire.
Mais vous parlez aussi, non, au nom de votre expérience, de jeunes petits protestants allemands qui méditaient la Bible quotidiennement dans
sa
famille.
Oui, je viens d'une famille protestante, on lisait la Bible presque tous les jours, et je pense que j'avais un peu un intérêt pour ces textes qui m'ont parlé. Beaucoup plus l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, que le Nouveau. Et donc, voilà, j'ai décidé d'approfondir tout cela, et j'ai fait des études de théologie, parce que pour faire la Bible en Allemagne, il faut devenir théologien.
Vous racontez tout cela dans un livre chez Bayard qui s'appelle « La Bible, quelles histoires ?» Plus accessible encore le numéro de Géo-Histoire de ce mois, qui s'appelle « Le judaïsme », formidablement présenté comme toujours. Et puis, aux éditions du Seuil, « L'invention de Dieu », titre provoquant. Nous, on a choisi plus prudemment, c'est déjà assez scandaleux, le titre l'invention du judaïsme.
Oui, vous savez, inventer, c'est aussi découvrir. Donc voilà, il faut le prendre un peu dans les deux sens.
Merci de ne pas être provocateur. Alors évoquez un peu votre travail, Thomas Romer. Vous avez maintenant des logiciels bibliques, mais vous avez eu l'expérience des rouleaux.
Voilà, il faut rappeler que les textes bibliques ont été écrits sur des rouleaux de peau ou de papier. Et ces rouleaux, bah, ils se conservent pas très longtemps. Ils se conservent au milieu humide 50, 60 ans. Et donc, il faut le réécrire. Et quand on réécrit pas bêtement. On ajoute des choses, on laisse tomber d'autres choses. Et donc, c'est en fait une littérature qui se réinvente constamment.
Parce que à San Diego, un certain nombre de biblistes américains poursuivent encore le rêve de retrouver le contenu du premier rouleau.
Voilà,
qui
ça c'est
été
un peu l'idée qui s'est mise en place au 19e siècle dans les sciences bibliques. L'idée était un peu d'aborder la Bible comme un archéologue, enlever les couches les plus récentes pour retrouver ce que les Allemands appelaient le Urtexte, le texte primitif. Mais on oublie quand même un peu que c'est pas possible parce qu'on réécrit constamment et donc réécriture signifie aussi changement, laisser tomber. Et donc les textes les plus anciens, la chose qu'on peut éventuellement faire, c'est un peu de retracer les contours de ces textes. Mais reconstruire le premier écrit de la Bible, malheureusement, on ne le pourra pas.
Vous parlez de l'archéologie. Alors, l'archéologie, expliquez-vous, a un développement de plus en plus parallèle à celui de l'exégèse, de la science du texte, mais joue un rôle de plus en plus important.
Tout à fait. Donc longtemps, en fait, c'est un peu deux sciences qui, qui ont évolué de manière parallèle, sans trop s'intéresser l'une à l'autre. Tout au début, on pensait que l'archéologie pouvait prouver la Bible. Quand on s'est rendu compte que ça, c'était pas possible, on s'est un peu ignoré mutuellement. Et maintenant, on se rend compte que les archéologues, ou disons certains archéologues, par la manière dont ils travaillent, arrivent à des résultats qui sont assez comparables, en fait, de ce que les biblistes peuvent dire à partir de leur analyse du texte, la philologie, l'épigraphie, et ainsi de suite.
Ce ne sont pas nécessairement les archéologues qui ont le plus accès aux médias. Je vais vous parler d'Eilat Mazar, qui travaille sur ce qu'on appelle à Jérusalem la cité de David. Alors, David et Salomon, les premiers rois du royaume unique. Alors, vous allez évidemment me dire que leur historicité, elle aussi, est très problématique, qu'elle ne s'appuie que sur la Bible. Eh bien non, Madame Mazar a d'abord retrouvé en 2005... un mur qu'elle attribue au roi David, et ensuite en 2010, un autre qu'elle attribue au roi Salomon.
C'est la première fois que nous découvrons une porte de la ville et la ligne de fortification de l'époque du roi Salomon. Le tout est magnifiquement préservé avec la muraille de la ville. Toutes les conclusions que nous avons en main indiquent que nous nous trouvons vers le 10e siècle avant l'ère chrétienne, qui sied si bien avec la version biblique.
Cette muraille, témoignage qu'il y avait à Jérusalem il y a 3000 ans, à l'emplacement décrit par la Bible, un régime capable de réaliser de telles constructions. Selon le texte biblique, elles auraient été construites sous le règne de Salomon, fils de David, des murailles entourant le premier temple mentionné dans le livre des rois. Les fortifications, qui comprennent une section de 70 mètres de long d'un ancien mur, sont situées à l'extérieur des murs actuels de la vieille ville de Jérusalem, à côté du lieu saint connu sous le nom de Mont du Temple pour les Juifs et de Noble Sanctuaire pour les musulmans. La découverte est sensible, car le site abrite désormais deux hauts lieux de l'islam, le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa.
Un compte-rendu ici dans Gizen TV, une chaîne d'infos israélienne en français, n'équivaut pas nécessairement à une publication scientifique dans une revue à comité de lecture. C'est quand même rassurant quand les données archéologiques et les données bibliques coïncident et qu'on peut affirmer qu'il y a eu un régime fort à la tête d'un royaume unique au 10e siècle avant notre ère.
Le problème, c'est que les choses sont un tout petit peu plus compliquées. Donc ce fameux mur de David, aussi les maisons attribuée à David. Si vous demandez à d'autres archéologues, ils vous diront c'est entre le 9e et le 3e siècle avant notre ère. Le problème, c'est qu'en Israël, dès que vous évoquez un nom comme David ou Salomon, vous obtenez beaucoup d'argent pour poursuivre vos fouilles et vous êtes constamment à la télé ou dans les journaux. Maintenant, si on regarde un peu les choses plus froidement, c'est plus compliqué et donc l'archéologie est aussi une science qu'il faut interpréter. Et évidemment, si on a tout de suite sa grille d'interprétation dans la tête, on trouve toujours ce qu'on cherche. Mais je pense, en effet, il faut être prudent. Rien n'empêche, en effet, de découvrir des choses à Jérusalem du 10e, du 9e siècle. Mais est-ce que ça nous prouve l'historicité de David et surtout un empire davidique? Ça, c'est quand même une question un peu plus compliquée. Il y a d'autres sites actuellement en Israël où la polémique s'installe autour de des gens qui ont retrouvé le palais de David aussi dans un endroit appelé Kirbet Kayafa. Et d'autres, ils sont un peu plus prudent. Moi, j'appartiens plutôt à ceux qui sont un peu prudents.
D'empire davidique, il n'y eut pas, très certainement, d'autant qu'il y avait deux royaumes très vite. L'un au sud, le royaume de Juda, dont les souverains disaient appartenir à la dynastie de David, et puis un autre beaucoup plus important
au nord, tout et qui portait le nom d'Israël.
Israël, donc voilà, Israël à l'époque ne comporte pas Jérusalem ni la partie sud de l'État d'Israël actuel. Et cet État-là est en effet un État qui souvent a contrôlé, même réduit un peu en état de vassalité, le petit royaume dans le sud. Et c'était le problème, c'est évidemment que les textes bibliques sont écrits dans une perspective judéenne sudiste. Et rend un peu difficile de se rendre compte de cette importance. Par contre, cette importance est bien attestée à la fois par l'archéologie, mais aussi par les sources assyriennes qui, en effet, s'intéressent à Israël et pas tellement à ce petit royaume de Juda.
Alors, il faut toujours penser qu'on est dans une zone où il y a d'un côté la puissance égyptienne, maintenant, à l'époque qui nous intéresse, la puissance assyrienne voilà. Qui est davantage attirée par Israël au nord, ce qu'on appellerait plus tard la Samarie, oui. Et Israël tombe en 722 avant notre ère. Et là va se constituer un premier moment de grâce pour la première cristallisation des grands textes bibliques. Grâce, dites-vous, au transfert des scribes qui étaient au nord et qui vont arriver à Jérusalem, qui en l'espace de peu d'années va gonfler, être voilà. Décuplé en surface.
Tout à fait. Archéologiquement, donc ça, on est assez sûr que Jérusalem, durant le 8e, fin du 8e et surtout 7e siècle, devient pour la première fois au premier millénaire une ville importante. Et surtout par le fait aussi qu'il y a un mouvement de population du nord vers le sud et certains scribes, probablement dans leur bagage, ont aussi des rouleaux de certaines traditions sur l'Exode et d'autres qu'ils amènent dans le sud.
Alors, un grand moment, c'est le règne de Josias, 640 avant notre ère jusqu'en 609, jusqu'à ce qu'il soit défait par le pharaon d'Égypte. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y a pas un dieu unique, il y a des dieux multiples à côté de Yahvé, et la preuve nous en est donnée par le livre des rois, le deuxième, chapitre 23, Josias fait le ménage voilà, dans Josias, le temple de Jérusalem.
Voilà, Josias nettoie le temple de Jérusalem, donc il fait sortir tous les statues qui rappellent des divinités assyriennes, puisque les Assyriens à ce moment sont en déclin, et il fait aussi sortir des divinités liées à Yahvé. Par exemple, Asherah, une déesse mère. Une déesse mère, une déesse qui probablement est la parèdre, l'épouse, la maîtresse de Yahvé, représentée peut-être par une sorte d'arbre stylisé et qu'on connaît bien dans le Proche-Orient ancien.
Vous y allez fort quand même quand vous dites que même après ce ménage demeure une statue de Yahvé oui. Qui serait assis sur un trône portant des chérubins, une sorte de petit panthéon secondaire.
Voilà, là, tout à fait. Alors dans le nord, Yahvé était plutôt représenté sous forme de taureau, comme Baal à Ougarit. D'ailleurs, le prophète Osée, dans le livre, le dit. Il parle du veau de Samarie. Dans le sud, on a la vision du prophète Ésaïe qui va, en effet, Yahvé assis sur son trône et entouré des séraphins et appuyé sur des chérubins. Donc, il y a beaucoup de collègues qui trouvent ça un peu scandaleux, mais si on regarde les textes froidement, je pense qu'il n'y a pas tellement d'autres hypothèses. Donc, cette idée que Yahvé aurait toujours été invisible, je pense que c'est un peu une rétroprojection de ce qui est devenu après le judaïsme.
Les textes, alors on peut reconstituer peut-être la bibliothèque des scribes du roi Josias, avec le premier noyau concernant Moïse qui vient
voilà,
sans doute
du sud. Il y a une histoire de Moïse dont on raconte la naissance comme celle du roi assyrien Sargon, justement.
Et puis il y a aussi le personnage de Josué, rappelons que Moïse s'est arrêté au pied de la terre promise, que la conquête de Canaan a eu lieu plus tard. Vous me permettez l'introduction d'une petite vignette, dont il ne faut pas exagérer l'utilité dans notre démonstration, mais qui n'est peut-être pas complètement fausse, du point de vue qui est celui du nôtre. Le téléfilm de James Conway consacré à Josué qui va prendre la ville de Jéricho.
« Oh, s'il te plaît, aide-moi sur un billet, je t'en supplie. » Tu m'as promis ton aide afin d'empêcher ces Hébreux de traverser le Jourdain, n'est-ce pas?
Ce sera même un plaisir pour moi de leur crever les yeux, de remplir le désert de leurs eaux si jamais ils agissent ainsi.
Nous savons combien ils sont capables d'agir avec cruauté et comment leur Dieu les soutient en réalisant des miracles.
Leur Dieu? Pour moi, ce sont d'abord les faits qui comptent. Malgré leur grand nombre, les Hébreux sont affaiblis par la maladie et par la faim, et je peux t'affirmer que l'armée de Josué, ainsi dénommée, n'est pas très forte et ne possède que très peu d'armes, ce qui est pour moi un fait important, très gracieuse majesté.
Ah oui? Alors va et dépêche-toi de les repousser, Assurabi.
Je m'arrangerai pour faire venir Josué et son espèce d'armée jusqu'à l'intérieur de nos murs, et je n'aurai plus qu'à l'éliminer.
Toi, le Dieu d'Abraham et de Moïse, qui m'a donné la charge de détruire les abominations qui règnent à Jéricho. Mais comment et avec quoi? Je n'ai ni assez d'hommes ni assez d'armes. Je suis désemparé.
Je t'ai choisi, Josué. Comment peux-tu douter de la parole du Seigneur ton Dieu?
Mais mon Dieu, je ne mérite pas ta confiance.
Cesse de douter de toi, Josué. Prends ton peuple dans l'état où il est affamé et épuisé, et avec le peu d'armes qu'il a, conduis-le en mon nom jusqu'au mur de Jéricho. Souviens-toi que je suis avec toi.
Ça mérite quand même un commentaire, parce qu'au fond, ce roi Josué, c'est un peu une figure de roi assyrien, et quant à Dieu, c'est un roi.
Tout à fait. Donc, ça reprend un peu l'idéologie des Assyriens, qui, en effet, racontaient leurs exploits en insistant sur le fait que, de manière miraculeuse, les dieux assyriens venaient à leur secours. Et quand on lit le livre de Josué, on se rend compte, c'est un peu une reprise de cette idée-là.
Dans la bibliothèque de l'époque de Josias, Josué, ça voilà, doit avoir à voir.
Voilà.
Il y a une ébauche de décalogue. Ce décalogue, ensuite, va venir une série de commandements bien formalisés. On met toujours une pause parce que vous nous déstabilisez beaucoup, là, Thomas Romer. Écoutez cette prière du judaïsme constitué, qui fait référence au commandement. Mais comme vous nous expliquez qu'il se superpose tout de suite des interprétations différentes, on y a ajouté un petit peu d'alpha blondie.
Bah, très bien.
Baruch ata Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Baruch shema. Baruch ata Adonai. Baruch shema. Adonai Baruch haba Yerushalayim. Baruch ata Adonai Baruch haba Yerushalayim. Jérusalem.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et c'est de reconstitution de l'invention du judaïsme qui est fait de sédimentation de terrain, de glissement de terrain. Thomas Romer, une longue intervention dans le numéro de décembre de Géo-Histoire intitulé Le judaïsme, beaucoup de livres, notamment chez Bayard. La Bible, quelles histoires? Bah oui. Nous en sommes maintenant à un tout autre moment. S'il n'y avait eu la destruction du temple et l'exil à Babylone, le judaïsme aurait-il existé? Le royaume de Juda va être abaissé en trois temps, 597 avant notre ère, 589-587. Une petite partie de la population est en Égypte, une petite partie reste, et puis les élites sont déportées à Babylone.
Tout à fait. Donc c'est cet éclatement qui aura pu signifier en fait la fin de ce petit peuple qui aura pu se fondre dans ces différentes civilisations et cultures. Et là, ça reste quand même pour l'historien, encore un petit mystère. Pourquoi c'est ce petit peuple-là qui va produire toute une série de textes, réécrire des textes qui deviendront ensuite le Pentateuque, eux qui deviendront voilà, la base du judaïsme. Parce qu'en effet, on aura pu se dire, c'est la fin, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de temple. Le dieu national Yahvé, est-ce qu'il a abandonné son peuple? Est-ce qu'il s'est fait battre par les dieux des Babyloniens? Donc c'est à ces questions-là que répondent paradoxalement un peu ces textes qui disent, malgré les évidences, Yahvé n'est pas seulement le dieu d'Israël, mais aussi le dieu de l'ensemble de l'humanité.
Et donc il y a Babylone, le milieu des anciens
scribes et prêtres
et fonctionnaires, voilà. Vous les appelez les deutéronomistes.
Oui, parce qu'ils s'intéressent ou ils se basent dans leurs idées théologiques sur le cinquième livre, ce qui deviendra le cinquième livre de la Torah, le Deutéronome.
Le livre des paroles. Et puis, les milieux des prêtres qui sont privés du temple qui a été détruit, oui. Les milieux sacerdotaux. Et les uns et les autres cherchent une interprétation possible de la dérédiction dans laquelle est le judaïsme.
Tout à fait. Alors, les deutéronomistes, si on peut les appeler comme ça, évidemment, eux, je ne sais pas comment ils se sont appelés eux-mêmes, donc eux vont écrire une histoire qui raconte en fait le temps de Moïse jusqu'à la destruction du Temple, pour montrer que la destruction du Temple, la fin de la monarchie, ce n'est pas un signe de la faiblesse de Yahvé, c'est Yahvé lui-même qui a fait venir les Babyloniens pour sanctionner son peuple et ses rois qui ne se sont pas conformés aux commandements divins tels qu'ils sont consignés dans le Deutéronome. Donc c'est une idée un peu que la catastrophe, c'est un peu la faute du peuple et surtout des rois. Donc on devient
qui ont rompu l'alliance, voilà, qui l'ont fragilisé.
Voilà, qui se sont trop intéressés aux autres peuples, aux autres divinités et qui n'ont pas respecté en fait la loi deutéronomique.
Et les milieux sacerdotaux, eux, disent il faut insister sur le culte.
Alors il faut insister sur le culte, sur le rituel. On a à la limite pas besoin de roi, parce que on raconte comment tous ces rituels sont donnés dès les origines. Le Shabbat est là au moment de la création, la circoncision avec Abraham, la Pâque déjà avant la sortie d'Égypte, et tous les rituels en fait au temps du désert.
Et là, le personnage de Moïse qui existait déjà va prendre davantage forme, surtout dans les milieux deutéronomistes qui disent que les fonctions royales, elles sont toutes endossées par Moïse. La médiation, je le répète, de Moïse n'a pas mené le peuple jusqu'à la terre promise, mais Moïse l'invite fermement à reconnaître la présence effective de Yahvé, qui va faire connaître son vrai nom. Encore une vignette extraite des 10 commandements de Cécile B2000. Vous aurez pire fin décembre avec le blockbuster de Ridley Scott consacré à l'Exode.
Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Oh Dieu, pourquoi n'entends-tu pas les cris de tes enfants qui souffrent en Égypte?
J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui arrachent ses chefs de corvée. Aussi je t'enverrai, toi, Moïse, auprès de Pharaon pour faire sortir mon peuple d'Égypte.
Mais quand je dirai à tes enfants que c'est le Dieu de leur père qui m'envoie, ils me demanderont quel est son nom. Que devrais-je alors leur répondre?
Je suis ce qui est. Tu leur diras, je suis m'a envoyé vers vous.
Vous retraindriez plutôt Thomas Romer, je suis Yahvé, mais jusqu'à présent, je ne me suis pas fait connaître sous ce nom, livre de l'Exode, chapitre 6. Alors, Yahvé, là, émerge sans que ce ne soit déjà le monothéisme.
Tout à fait. Alors le monothéisme, c'est quelque chose qui n'est pas là dès le début, c'est quelque chose qui va se construire petit à petit. Le Yahvé, à l'époque des deux royaumes, c'était un Yahvé dieu national qui était accompagné d'une déesse, comme on l'a dit. Josias, il va en faire un Yahvé un, mais pas encore un Yahvé unique, en disant c'est le seul dieu qu'il faut vénérer, sans qu'on dise que les autres dieux n'existent pas. Et c'est seulement après l'exil, en réfléchissant sur l'intervention de Yahvé par rapport à son peuple et à l'ensemble des autres nations, qu'on va en effet affirmer que Yahvé, c'est aussi le seul dieu. Yahvé devient le dieu unique. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il peut encore porter un nom? parce que pour porter un nom, on porte un nom pour se distinguer des autres. Donc le judaïsme va en effet réfléchir et arriver au fait qu'il ne faut plus prononcer ce nom.
Alors c'est un vaste chantier éditorial que la construction du Pentateuque pendant l'exil, mais en 539, c'est Babylone qui, à son tour, va être humilié. Selon le livre de Daniel, le roi ou le régent de Babylone, Balthazar, avait vu sur le mur du festin qu'il tenait s'inscrire les mots qui annonçaient sa fin.
En apprenant que les chevaux des Perses s'abreuvaient dans l'Euphrate, Belzaroutsour, le célèbre roi Balthazar de la Bible, se mit à rire.
« Ah, comment les Perses pourront-ils prendre Babylone ? Si ce voleur de Cyrus veut mettre le siège, il se cassera les dents. Allons dîner, cela vaut mieux. »
Cependant, au camp de Cyrus...
« Voici quelle sera ma ruse. Détourner l'Euphrate, pénétrer dans Babylone par le lit de l'Euphrate. Mais attention, le roi Balthazar tué, je désire que cesse la tuerie et le pillage. Je veux me présenter aux Assyriens comme leur libérateur, venant les sauver à la fois de la tyrannie de leur roi et de leur impiété. J'ordonne que les Juifs emmenés en captivité à Babylone par Nabuchodonosor, il y a 70 ans, eux ou leurs enfants... soient remis en liberté. Ils pourront reprendre le long chemin de Jérusalem.
539 et les années suivantes, alors, un certain nombre de déportés rentrent, un certain nombre restent
d'ailleurs. Parce qu'ils sont très bien là-bas.
Ils sont très bien là-bas. Le dites pas trop fort, ne soyez pas provocant, Thomas Robert. Et ils retrouvent des gens qui
sont restés dans le pays.
Qui sont restés à Jérusalem. Et alors, là, le Pentateuque va prendre sa forme quasi définitive à la suite de négociations.
Voilà, comme il y a plusieurs sensibilités théologiques, plusieurs idées sur ce qui fait l'identité de ce peuple de Yahvé, on va en effet essayer de mettre dans un seul document des idées très très différentes sur Yahvé. Donc on va avoir les sacerdotaux, les deutéronomistes, mais on va aussi avoir des textes comme l'histoire de Joseph qui raconte comment c'est bien en Égypte et donc ça reflète.
Oui, parce que là on a oublié ceux qui étaient partis en Égypte et qui glissent leur grain de sel.
Et qui devient de plus en plus important parce qu'après la Torah sera traduite de l'hébreu en grec en Alexandrie. Donc voilà, il faut aussi évidemment qu'ils arrivent à faire entendre leur voix et leurs préoccupations. Et donc la Torah, le Pentateuque, vers 400 avant notre ère, devient en effet une sorte de document, alors de compromis, de cohabitation, de synthèse, ça dépend un peu ce qu'on veut mettre en avant. Mais ce qui est clair, c'est que dès le début, le judaïsme s'est construit à partir d'une diversité.
Et d'ailleurs, l'emboîtement, on le rend visible par des incongruités qu'on n'a pas lissées de façon à ce que les points de vue puissent être affichés comme différents.
Il suffit de lire la Bible de manière attentive. Et déjà, les rabbins ont vu ces tensions, ces contradictions, pour se rendre compte qu'on n'a pas du tout voulu cacher ces divergences et différences. On a trois codes de loi, on raconte des histoires deux, trois fois. Et donc, pour montrer en effet que le Pentateuque est en fait un document qu'il faut constamment reprendre, interpréter, actualiser.
Et ne pas lire de façon littéraliste. Je voudrais qu'on prenne un dernier exemple qui vous est cher, que je trouve assez probant. Le Lévitique, c'est un des cinq livres. Le deuxième dit, il y a des gens qui doivent vous expliquer ça aux États-Unis ou ailleurs, les homosexuels sont condamnés par le Lévitique, c'est
tout
marqué.
C'est marqué.
Et alors qu'est-ce que vous dites, vous ?
Je dis, il faut aller jusqu'au bout et puis il faut réintroduire la peine de mort, il faut les tuer parce que c'est justement ce qui est dit au chapitre 20 du livre du Lévitique. Et je crois, dans les polémiques, personne à ma connaissance est allé jusqu'à là quand même.
Merci à vous Thomas Romer, votre livre Au Seuil, vous osez ce titre, L'invention de Dieu et... aux éditions Bayard, la Bible, quelles histoires ? Et le générique de la marche de l'histoire avec Serge Viguier à la technique, c'était Jacques Sigal à la réalisation, la préparation, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin et Franck Olivard.
Merci Jean Lebrun, on vous retrouve demain même heure pour une nouvelle diffusion du 6 avril 2015. Cette semaine est centrée sur les spiritualités. Demain, ce sera sur une émission sur Judas avec l'avocat et écrivain François Sureau.